Etur Jesus.
Les diplomates du Saint-Siège sont appelés à témoigner de la charité de l'Église. Le pape Léon XIV a reçu en audience une centaine de nonces apostoliques ce matin. Retour juste après ces titres sur la feuille de route qu'il leur a laissée pour vivre leur service. Dans l'actualité internationale, nous irons ce soir en Israël où la loi sur la conscription menace à nouveau l'existence de la coalition. Le parti chasse exige une exemption totale pour les juifs ultra-orthodoxes, ce que ne cautionne pas son allié au gouvernement, le Likoud de Benjamin Netanyahou. À la une de ce journal également, la renaissance très symbolique ce mardi de l'aéroport international de Mossoul, rouvert dans le nord de l'Irak, 11 ans après être tombé aux mains de Daesh. Et puis nous irons au Nigeria où le nombre de femmes qui décèdent après un accouchement est l'un des plus élevés au monde, une source d'inquiétude pour les autorités sanitaires.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir. Le pape Léon XIV entouré des nonces apostoliques ce matin. Une centaine de représentants du Saint-Siège étaient présents à cette audience dans la salle clémentine du palais apostolique. L'occasion pour le souverain pontife de les remercier pour leur travail au service de l'Église dans le monde, mais également de leur donner une feuille de route. Le compte-rendu de Marine Henriot.
Une feuille de route qui tient en un mot, la charité. En s'inspirant du comportement de Pierre qui redonne dignité aux mendiants infirmes devant la porte du temple, Léon XIV invite les diplomates au service du Saint-Siège à regarder droit dans les yeux ceux que la société a mis en marge. Tel Pierre, les prendre par la main et construire avec eux une relation, un pont et tout cela avec humilité. La charité, telle une boussole, et celle des diplomates doit être, comme celle de l'Église, prête à tout. Avant de donner ses lignes directrices, Léon XIV a salué le corps des nonces, un corps diplomatique ô combien particulier venant des 5 continents. « Je crois qu'aucun pays au monde n'a de représentant aussi uni et universel », leur a dit Léon XIV, ajoutant au début de son texte en improvisant combien il pensait ces mots et à quel point il éprouvait de la gratitude envers leur mission, car finalement la diplomatie du Saint-Siège est l'image du message qu'elle propose, celui de la fraternité. Fraternité humaine et de la paix entre les peuples.
Marine Henriot est le nonce apostolique qui est un pont entre le successeur de Pierre et les églises locales, entre l'église et les états, entre les blessures du monde et l'espérance de l'évangile. C'est ce qu'affirme le cardinal secrétaire d'état Pietro Parolin dans un entretien à retrouver sur notre site vaticannews.va. À la une de l'actualité internationale, la crise politique qui couvre de nouveau en Israël. Deux partis ultra-orthodoxes menacent de faire exploser la coalition scellée avant la guerre à Gaza avec le Likoud de Benjamin Netanyahou. Les partis Chasse et Yahadut HaTorah pourraient voter ce mercredi en faveur d'une dissolution du Parlement et d'élections anticipées. Ils se sont en effet trahis. Le Premier ministre refuse de soutenir ouvertement une dispense totale du service militaire pour les juifs ultra-orthodoxes. Évidemment, la guerre en cours à Gaza a changé la donne. L'éclairage de Denis Charbit, il est professeur de sciences politiques à l'université ouverte de Tel Aviv.
Ce que demandent les partis orthodoxes, c'est une dispense définitive. Et une telle loi, qui sans doute serait passée dans un autre contexte que celui que nous connaissons depuis octobre 2023, là, on est dans une mobilisation de longue durée qui nécessite la participation de centaines de milliers de réservistes. Un réserviste, c'est un civil à qui on dit « là, tu vas arrêter d'aller à ton travail et de revenir chez toi tous les soirs pour participer à l'effort de guerre ». Il y en a qui ont fait déjà près d'un an de réserve. Et discuter de l'exemption des orthodoxes dans un contexte pareil, vous imaginez à quel point ça soulève en Israël le sentiment que trop c'est trop. Et donc ça bloque. La coalition gouvernementale estime qu'elle ne peut pas voter un texte pareil dans le contexte actuel de la guerre. Alors, bien entendu, le Chasse et d'autres partis religieux s'estiment trahis, puisqu'ils disent « on avait signé un accord de coalition, c'était avant le 7 octobre, en vertu duquel on voterait cette loi qui permettrait cette dispense ». Et le Chasse et le parti du judaïsme de la Torah estiment que Netanyahou nous l'avait promis, puisqu'il n'est pas capable de nous promettre, nous allons à la dissolution du Parlement.
Des propos recueillis par Marie Duhamel, Denis Charbit, qui sera l'invité de notre dossier demain matin. Dans la bande de Gaza, la catastrophe, elle continue. Ce mardi, une commission d'enquête de l'ONU dénonce dans un nouveau rapport des attaques systématiques contre les écoles ou le patrimoine culturel et religieux dans l'enclave. En tuant des civils réfugiés dans des écoles, les forces de sécurité israéliennes ont commis le crime contre l'humanité d'extermination, n'hésite pas à écrire les experts onusiens. Et puis la distribution d'aide coordonnée par la Fondation humanitaire pour Gaza, organisation pilotée par Israël avec le support des États-Unis, a donné lieu à de nouvelles scènes de chaos aujourd'hui. 36 personnes au moins auraient été tuées par balles ce mardi, donc par des tirs israéliens. C'est une inauguration en grande pompe qui est le symbole d'une renaissance à Mossoul, la grande ville du nord de l'Irak. L'aéroport international a été officiellement rouvert ce mardi, 11 ans tout juste, jour pour jour, après sa prise par le groupe terroriste État islamique. Les précisions de notre correspondante en Irak, Anne-Sophie Lemouf.
L'aéroport, utilisé pendant 3 ans comme poste militaire par les terroristes, a vu ses pistes sabotées, minées et ses équipements et infrastructures largement détruits. Retombé entre les mains des forces irakiennes en février 2017, ce dernier est resté 5 ans désaffecté. Quasiment 3 ans se sont écoulés depuis que la première pierre du projet de réhabilitation a été posée. Les autorités ont tout mis en œuvre pour accélérer les travaux de reconstruction menés par des sociétés turques afin d'inaugurer sa réouverture ce 10 juin, journée tragiquement symbolique pour les Irakiens. Signe de victoire et de résistance sur le groupe État islamique, le premier vol inaugural Bagdad-Mossoul, avec à son bord le premier ministre irakien Mohamed al-Soudani, était programmé pour ce mardi. Après la reconstruction du vieux centre de Mossoul, puis désormais de l'aéroport, Mossoul et ses 1,5 million d'habitants connaissent des jours meilleurs après avoir vécu l'enfer. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf pour Radio Vatican.
L'Union européenne souhaite sanctionner de nouveau la Russie. La présidente de la Commission a proposé d'abaisser aujourd'hui le prix du baril de pétrole russe de 60 à 45 dollars. Les exportations de pétrole représentent toujours un tiers des revenus de la Russie. Nous devons réduire cette source de revenus, a expliqué ce mardi Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse. L'Ukraine, où les autorités ont fait état de plus de 300 nouvelles attaques aériennes russes la nuit dernière. Elles ont fait au moins 3 morts, dont 2 à Odessa, sur la mer Noire. Ce soir, le chancelier allemand Friedrich Merz dénonce des actes de terreur contre la population civile ukrainienne. 3 jours de deuil national décrétés en Autriche où 9 personnes ont été tuées aujourd'hui par balle dans un établissement scolaire. C'est un ancien élève de cette école située à Graz qui est l'auteur de la tuerie. C'est une tragédie nationale, s'est ému le chancelier autrichien Christian Stocker. L'église catholique autrichienne organise une veillée de prière ce soir à la cathédrale de Graz et a mis à disposition un numéro de téléphone. Au Nigeria, il ne fait pas bon accoucher pour une femme, en témoignent ces chiffres de l'ONU selon lesquels une femme meurt en couche toutes les 7 minutes dans le pays ou quelques jours seulement après avoir donné naissance. Une bien triste réalité qui témoigne des carences du système de santé dans le pays le plus peuplé du continent. Abuja, la correspondance d'Ishaka Degboye.
On estime à 75 000 le nombre de femmes qui meurent en accouchant en un an, soit un décès toutes les 7 minutes. Ce qui est frustrant pour beaucoup, c'est qu'un grand nombre de ces décès, dus par exemple à des hémorragies après l'accouchement, pouvaient être évités. Parmi les autres causes courantes des décès maternels figurent l'obstruction du travail, l'hypertension artérielle et les avortements pratiqués dans des conditions dangereuses. Le taux de mortalité maternelle très élevé au Nigeria est le résultat d'une combinaison de plusieurs facteurs, l'insuffisance des infrastructures de santé, à la pénurie du personnel médical, aux traitements coûteux que beaucoup ne peuvent pas s'offrir. De nombreux établissements de santé manquent d'équipements de base, de fournitures et de personnel qualifié, ce qui rend difficile la fourniture d'un service de qualité. Le gouvernement fédéral du Nigeria ne consacre actuellement que 5% de son budget à la santé. Cheikh Adeboye, Radio Vatican, Abuja.
La famine menace le sud de Khartoum. C'est l'alerte lancée ce mardi par le Programme alimentaire mondial de l'ONU. Alors que la guerre civile déchire toujours le pays, le PAM a enregistré des niveaux de faim sévères dans une ville située à 40 km de la capitale soudanaise. Les besoins sont immenses, s'alarme l'agence onusienne qui appelle la communauté internationale à agir immédiatement en augmentant les financements pour stopper la famine dans les zones les plus touchées et en investissant dans la reconstruction du Soudan. Et puis avant de refermer ce journal, international. Les tensions se poursuivent en Californie où Donald Trump envoie ce mardi 700 Marines à Los Angeles. Ils sont chargés d'épauler des milliers de soldats et policiers chargés de faire revenir le calme. Depuis plusieurs jours, de violents affrontements opposent des policiers chargés d'expulser des migrants à des manifestants. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous sur nos ondes, ce sera demain matin à 8h30 en direct de Rome. Je vous souhaite d'ici là une excellente soirée.